Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Mélina de Courcy.
Bonjour Christophe.
Alors vous nous emmenez au Bernardin où vous enseignez l'histoire de l'art et nous allons voir une exposition d'œuvres de François-Xavier de Boissoudy. Bonjour François-Xavier de Boissoudy.
Bonjour.
Les œuvres sont rassemblées sous le titre Stat Crux, premier vers du verset, du verset Stat Crux et Dum Volfitur Orbis, la croix demeure tandis que le monde tourne. Alors comme l'écrit Robert Redeker, l'œuvre d'art n'est pas de représenter Jésus, elle est de l'appeler, d'appeler sa présence. Et dès l'entrée, au fond, à droite, on est saisi, bien sûr, on a envie de comparer avec Michel Siri, pas tant dans le trait que par l'enfouissement de soi au pied de la croix, ou encore à Louis Souterre, dont une crucifixion est en ce moment exposée à la galerie Karsten Greve dans le 3e arrondissement. Et puis, on descend les quelques marches et les comparaisons se retirent. On oublie Michel Siri, on oublie Louis Souterre et on est face à ces peintures étonnantes, impressionnantes, des face-à-face avec la croix ponctuée de portraits de Christ souffrant. Et là, le mystère l'emporte sur le dolorisme, car la croix, c'est un lieu, le Golgotha, et un temps. Et vous avez cherché l'adéquation des deux, François-Xavier de Boissoudy.
Oui, j'ai cherché l'adéquation des deux. En fait,
le lieu et le temps.
J'ai essayé de revenir à mon expérience d'homme,
oui,
qui nourrit celle de l'artiste,
oui,
d'abord. Quoi. Et ça veut dire, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça me fait qu'il soit mort sur une croix il y a 2000 ans, quoi. Parce qu'on pourrait, penser que vraiment la chose est lointaine. Mmh. Et en fait, je me suis aussi souvenu de l'expérience de la rencontre spirituelle que j'ai faite avec l'Esprit, avec l'Esprit Saint, un jour, il y a 20 ans. Et j'ai toujours fait en sorte de parler de la rencontre et d'être dans l'art de la rencontre. Et je me suis dit, comment faire pour que le Christ rencontre ces gens qui sont au pied du Golgotha, qui sont représentés dans une vision historique d'un Jésus de l'histoire qui effectivement un jour est crucifié. Mais qu'est-ce que ça nous fait pour aujourd'hui? Parce que l'idée de l'art sacré, c'est de sortir de la temporalité pour dire que c'est encore valable pour aujourd'hui.
Alors avant que Mélina de Courcy nous fasse rentrer dans votre œuvre,
oui.
Moi je regardais ces crucifixions particulièrement, avec plein de personnages, quelquefois juste des silhouettes, juste quelque chose débauché en blanc, une lumière, une flamme, quelque chose. Et de façon très ignatienne, je me disais, mais je suis où, moi, là-dedans?
Exactement, c'est la question.
C'était ce que vous vouliez?
Oui. En fait, je ne voulais pas que vous soyez un larron. Je ne voulais pas que vous soyez une sainte femme, pardon.
À propos de larron, il y a un très joli portrait du bon larron.
Soyons sérieux. Ouais. Non, je voulais annoncer quelque chose. Qui n'est pas de l'ordre de la temporalité, mais qui passe par les yeux de la foi, c'est-à-dire, les gars, vous allez rencontrer quelqu'un quand vous serez mort. À la seconde où vous mourrez, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir les bras. Et il faudrait que vous le sachiez. Je trouve que c'est pas mal que les Bernardins proposent cette rencontre.
D'autant que j'ai l'impression que
ça va arriver.
Que ça sera dans cette forme-là.
J'en sais rien.
Et je vous parle de ça, c'est la raison pour laquelle je vous ai comparé avec Louis Souterre.
D'accord.
Parce qu'il y a une figure comme ça, très très forte, juste blanche comme ça.
Ouais.
Et on a l'impression qu'il avait trouvé, il avait tutoyé déjà l'au-delà. Et vous, à travers la crucifixion, vous tutoyez cette présence, c'est-à-dire que vous nous en donnez l'expérience, quoi.
En fait,
Vous rendez compte de ce que vous avez fait ou pas?
Non, je sais pas. En fait,
ouais, bah
en fait c'est pas, ça m'appartient pas, ça.
Ouais.
Ça appartient au témoin. Je sais bien qu'on retrouve pas mon travail ailleurs.
Absolument.
Ce type de choses. En fait, on répond à des intuitions quand on fait ça. Hein. On se demande et comment je vais faire pour présenter le Christ et les à la hauteur de ce qui passe en dessous.
J'ai passé du temps dans l'exposition puisque je l'ai vu deux fois en fait. J'ai fait deux fois le tour et la seconde fois je me suis dit, mais est-ce qu'il s'est rendu qu'il a fait?
En fait,
donc je suis content de vous rencontrer.
Vous savez, on obéit à des intuitions qui sont plus grandes que nous,
oui,
et qui correspondent pas aux yeux de la chair, ni au Jésus de l'histoire, mais à une rencontre amoureuse. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà quelqu'un qui nous aime et qui a envie de nous élever à lui, dans un face-à-face. Tous mes tableaux s'appellent, toutes les crucifixions s'appellent face-à-face.
Absolument.
Voilà.
Et alors, comme vous le disiez, c'est totalement intemporel. C'est-à-dire que oui, c'était au Golgotha, il y a 2024 ans. À peu près. Mais c'est là, c'est maintenant. Mélina.
Alors moi, je ne fais que boire à vos paroles. Je suis passionnée par cet échange. Mais je voulais d'abord dire à François-Xavier combien c'était sublime.
Merci, Mélina.
Et je voulais vous remercier parce que pendant que vous avez travaillé, on s'est rencontrés. On a eu l'occasion d'échanger au Bernardin.
Oui.
Vous êtes passé souvent, vous étiez en résidence. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Voilà. Et donc, alors, je voudrais préciser à nos auditeurs que c'est absolument extraordinairement beau.
Merci.
Et que... c'est aussi, surtout, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on parle, c'est nouveau. C'est-à-dire que vous faites regarder le Christ autrement, le Christ en croix.
C'est du pas
vous, vous nous faites regarder le Christ en croix autrement. Donc, vous utilisez la technique du lavis, une encre diluée. Vous allez préciser ça pour nos auditeurs, parce que c'est très important, la technique, dans votre rendu esthétique. Et c'est toujours la même technique.
Oui, même si elle évolue.
Elle évolue, mais
elle
je veux
nourrie,
dire...
Elle est vivante.
Voilà.
Comme mon inspiration est vivante, je suis vivant. Et ma technique, mon envie de dire les choses, le langage qu'on invente est rendu vivant par le mystère même dont on doit parler.
Voilà. Donc justement, c'était un peu ça ma question, donc merci de me mettre sur la voie. C'est-à-dire que vous parlez du mystère de la croix c'est un instrument de torture, c'est un instrument de supplice, et donc c'est terriblement noir et sombre, et toutes vos croix sont blanches.
Oui.
Ou, quand la croix n'est pas blanche, le Christ est blanc. Je l'ai ici,
voilà.
Vous voyez.
Oui, parce qu'on ne voit pas forcément la croix, mais on voit le Christ en croix. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer, surtout pour nos auditeurs un peu, qu'est-ce que ça a impliqué pour vous, ce travail, finalement? Comment vous avez abordé cette question-là
En tâtonnant. Disons, on répond à une intuition, on n'en est pas sûr du tout. On est un peu... en train de se chercher des repères, et il n'y en a pas. Donc, ça, c'est une expérience de l'isolement, en fait. Et en même temps, on est un peu tout seul avec sa découverte, et il va falloir la porter. Ça veut dire qu'il va falloir faire comme d'habitude, c'est-à-dire des petits formats, des plus grands formats, et jusqu'à des formats qui vous permettent de vous abandonner. C'est-à-dire quand vous faites un tableau qui fait 10 mètres carrés, puisque je me suis dit, c'est le moment, au Bernardin, de faire des trucs grands, parce que c'est une chance, les Bernardins, que ça risque pas de m'arriver souvent. Et puis, il faut montrer, il faut les montrer, ces choses, et être à l'échelle. J'ai fait des formats qui me permettaient de m'abandonner. C'est-à-dire que d'habitude, je fais confiance dans un certain langage, dans ma maîtrise, et tout d'un coup, on est obligé de se déprendre de sa maîtrise et de laisser l'eau couler beaucoup plus. C'est des litres que je mets sur du papier qui est à plat. C'est un grand dessin sur lequel je marche. Donc, je suis comme Fabrice à Waterloo, je ne vois pas grand-chose de la bataille. On avance à tâtons, on ne sait pas tout à fait ce qu'on va dire au début. J'ai eu un flash de ces personnages qui sont en suspens, progressivement attirés, mais il y a des trucs, comment dirais-je, où le cœur me dit non, ça va pas, parce que représenter tout le monde à la même hauteur face au Christ...
C'est terriblement construit.
Bien sûr, c'est un chemin, c'est lent. On avance petit à petit. Les derniers Christ, effectivement, les derniers formats qui font 2,50 m par 3,50 m. Si vous voulez, je me suis aperçu que la matière parlait en elle-même. C'est-à-dire quand vous employez de l'ocre rouge sous forme liquide d'encre, véhiculée par l'eau, vous ne maîtrisez pas grand-chose, quoi. Donc il faut laisser la chose arriver. Et vous surprendre. C'est un peu comme la rencontre.
Alors on parle toujours d'être au pied de la croix, quand on évoque notamment la Vierge Marie, le Stabamater, au pied de la croix. Là, on n'est pas au pied de la croix, on est en face de la croix.
C'est ça. Voilà.
C'est Christian Xer qui interprète le Crucifixus, extrait de la Missa di Gloria de Puccini. Puccini, dont nous fêtons le centenaire de la naissance cette année. Alors, je suis avec François-Xavier Boissaudy, qui fait une exposition absolument décoiffante, qui s'appelle Stad Crux, et qui est au Bernardin, et Mélina de Courcy, qui nous emmène à cette exposition. Alors, Mélina.
Eh bien, merci pour cet extrait, parce que on voit tout de suite ressortir les noirs dans le profond lavis des tableaux de François-Xavier de Boissaudy, qui sont donc un travail à l'encre et à l'eau. Lavis, c'est ça, c'est de l'encre véhiculée par l'eau, on peut
exactement
dire ça, hein, François-Xavier,
oui,
hein, parce que c'est l'eau qui recule et qui, voilà.
On prend le dessin, moi avant je faisais des beaux dessins, et bien au trait et tout, et en fait, on les rejoue comme au poker, vous reprenez des cartes, ben vous rejouez. Parce qu'en fait, on ne va pas se satisfaire de son petit talent. Quoi.
À quel moment ça s'arrête parce que quand on joue, quelquefois, il faut s'arrêter.
Hein. Et ben, quelquefois, on rate. Et avant de réussir, disons que je présente cinq toiles d'un mètre carré et trois toiles de 10 mètres carrés. J'ai dû en faire 20 plus 15 en gros. Donc on rate souvent, mais il faut parier gros pour gagner gros. Mmh. Voilà.
Alors vous pariez de toiles de grande dimension. Moi, il y en a une qui m'a évidemment complètement interpellée. C'est celle qui s'appelle La Ville, qui représente donc à droite la ville que j'interprète bien sûr comme étant Jérusalem.
C'est bien possible.
Voilà, c'est bien possible. Au fond, les sommets qui dont on voit bien que ce sont des superpositions de la vie qui ont repoussé
absolument
le blanc. C'est sublime, hein. Je vous le dis, c'est vraiment très beau. Cette toile est dans un lavis plutôt sépia, ocre.
Alors c'est dans un rouge, oui.
Rouge,
c'est,
hein, qui donne un rendu un peu rouge-brun, voilà.
Oui, oui.
Voilà. Et la ville est à droite, assez sombre, on n'en distingue pas les ruelles, on aperçoit quelques toits-terrasses. Et à gauche de cette ville, dans la pampa, j'ai envie de dire,
nous avons
un petit cercle de lumière au milieu duquel est couchée la croix.
Absolument.
Elle n'est pas dressée. Ce qui me fait dire que nous sommes à la place de Dieu le Père qui voit la croix d'eau.
Ah, vous voyez des trucs.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette ville qui est un tableau fascinant?
Alors, c'est la radio, c'est montrer de la peinture à la radio, c'est quand même tout à fait étonnant.
C'est formidable.
Imaginez le Golgotha qui est au centre.
Oui.
Et effectivement, sur la droite, il y a la ville qui est une sorte de gros engrenage, dans le sens où il y a des tours autour du mur d'enceinte qui ressemblent à des dents. Voilà, et ce qui entraîne finalement, possiblement, cette énorme roue de la cité humaine, eh bien, c'est cette petite tache lumineuse au centre, cette petite montagne qu'est le Golgotha, et dont on m'a fait remarquer, notamment Sylvie Germain, que ça ressemblait à un crâne. Voilà. En fait, à la base, j'avais comme seule idée, puisqu'on parle de Stade Crux, la croix qui demeure, où est-ce que ça a eu lieu? Et vous savez, quand on veut montrer sur une carte où ça a eu lieu, où les choses, où la chose est, on fait une croix. Voilà. Donc, j'ai fait une croix. C'est pour ça que je la présente dans le supplice. Elle n'est pas encore en verticale. Oui. Voilà. Il y a des personnages autour qui sont tout petits, hein, qui font 300-400 mètres sur une toile qui fait 2,50 mètres. Et il se passe un petit grouillement autour de cette croix, un petit grouillement dans la lumière. Et en fait, c'est un peu la porte d'entrée, parce que où a lieu le supplice? Le supplice a lieu hors de la cité des hommes. C'est ça que je voulais montrer. C'est finalement, ça a lieu dans le no man's land dont vous parliez tout à l'heure. Et il est face au ciel. Parce que, comme je suis un peintre, j'ai le droit de composer mon image et d'y mettre plusieurs choses sur plusieurs plans différents, comme si on avait rassemblé tout un cinéma en une seule image. Et j'ai mis le ciel aussi. C'est pas juste la surface de la terre. Et le ciel, qu'est-ce que ça raconte quand c'est blanc? Eh bien, c'est comme les ciels dorés ou les fonds dorés de la peinture médiévale. Ça dit l'éternité. Et à un moment, voilà, cette porte, une vie loin des préoccupations de la cité des hommes. Et la porte d'entrée, c'est le Golgotha. C'est-à-dire, en gros, mourir un peu pour pouvoir aimer.
Oui, moi j'ai retrouvé le formidable travelling arrière de Mel Gibson dans La Passion du Christ, qui tout à la fin, hop, on s'élève complètement et on laisse la croix, et on laisse la croix tout en bas. Et j'ai repensé à ça en voyant votre toile, en me disant, il y a cette intuition partagée extraordinaire finalement, la croix nous élève, mais on s'élève au-dessus de la croix.
L'idée de l'art, c'est de donner un renseignement sur la vie.
Et oui.
Et en fait, comment donner un renseignement sur la croix? Eh bien, on commençait par dire où ça s'est passé.
Donc, ça, c'est très juste.
Voilà, faire un grand tableau pour dire ça. Rien que ça. On n'est pas là pour faire la morale.
Non.
C'est ça qui est bien quand on a annoncé le Christ, c'est qu'on n'a pas à faire la morale. On dit juste les choses. On n'est pas là en train de vous expliquer attention au climat. C'est pas ça. Attention.
Le mystère l'emporte sur le dolorisme, ça c'est clair. Et alors, dans un face-à-face, le face-à-face 5, moi ce que j'ai trouvé épatant, c'est que la croix du Christ est à hauteur d'homme, ce qu'elle était dans les recherches
le
scientifiques, on sait,
c'est, ça, oui. Hein, oui.
C'est pas du tout une énorme croix tout en haut et qui est inatteignable. Sinon, on n'aurait pas pu entendre déjà les mots du Christ, parce qu'il ne pouvait que les murmurer. Et là, on a ces six personnages, l'un qui est effondré, on sent qu'il y a des femmes à gauche, on peut peut-être même dire que c'est Marie qui est tout de suite à gauche, Marie-Madeleine et Jean, et puis là, il y a des gens un peu affolés, et on a cette croix qui est en plein centre, et qui est particulièrement, mine de rien, très réaliste par sa hauteur, par sa...
Je l'ai faite, effectivement. Alors, il y avait deux possibilités. Soit je représente les gens qui sont élevés à la hauteur du Christ par amour, ou alors je me suis rappelé de cette croix, et notamment du livre de Brunor, où il explique la croix. Comment ça s'est passé en vrai. Et en fait, il y a... D'habitude, il y a déjà le poteau planté en terre et on rajoute le patibulum avec le condamné. Donc je me suis dit, en fait, là aussi, il se retrouve à la hauteur. Mais ça ne va pas donner la même chose. Et je l'ai fait quand même parce que c'est une recherche que j'ai faite. Là, il y a un sol et de moins en moins, on verra le sol. Parce que j'ai pas envie. Là, ça suppose le sol suppose pardon une
terre,
temporalité. Hein. Voilà. Alors que j'avais pas envie de situer les choses comme ça. Je l'ai représenté. Il est là. Il est bien physique, mais il se tord sur la croix, quoi.
Mélina.
Et alors, il y a des croix, mais il n'y a pas que des croix, puisque vous avez aussi un magnifique tableau, tout à fait extraordinaire, du Christ à Emmaüs, c'est-à-dire le Christ ressuscité, qui éclaire de son savoir, et de sa présence.
Surtout,
les pèlerins qui cheminent dos à Jérusalem en se lamentant de ce qui est arrivé, et qui ne reconnaissent pas le Christ en chemin, qui pourtant chemine avec eux. Et ils marchent tous vers une lumière extraordinairement blanche, éblouissante, tous les trois de dos et le Christ a les bras en croix,
remarqué,
comme un rappel de ce supplice.
Et vous avez remarqué autre chose dans ce formidable tableau.
Qu'il y en a une qui est une femme.
Voilà.
Ah bah, et oui, une femme.
J'ai tout de suite vu ça. Et voilà. Alors je dis chouette, chouette.
Les pèlerins d'Emmaüs, c'est un couple. Vous le savez, ça.
Bah, là, en tout cas, on le voit.
Mais non, mais vous le savez parce que c'est dans l'Évangile.
Vous savez que les femmes sont sauvées aussi.
Non, mais c'est dans l'Évangile, puisque vous savez que. On note, il y a Cléophas.
Et puis, on ne sait pas qui.
Mais pourquoi on dit un seul nom et pas l'autre?
Oui, effectivement. Mais
parce que l'autre est associé au premier. C'est monsieur et madame Cléophas.
Alors.
Alors, ensuite, Rubens, Rembrandt, voilà, etc., nous ont fait deux hommes.
Oui.
Mais en réalité, c'est un couple, et c'est beaucoup plus beau quand on sait que c'est un couple. Et là, vous le peignez en couple.
En couple.
Mais il faut le regarder, il faut le savoir, il faut le comprendre. Et on se dit, ah mais bien, bien évident.
En fait, la grande histoire, pour chacun de nous, c'est pas l'art. Ça passe, on va dire, pardon, on va être poli, c'est secondaire. En fait, notre grande histoire, notre grande affaire, c'est l'amour, quoi. C'est être aimé, aimé. En fait, c'est ça qui nous donne notre identité. Hein. Et l'art est fait pour servir l'amour et non pas l'inverse. L'art n'est pas.
L'amour nourrit l'art, mais l'art sert l'amour.
Absolument.
C'est comme ça que
bah,
vous le
oui. Ben oui, parce qu'en fait, la recherche de Dieu, c'est la recherche de l'amour, ça se confond bien. Quoi. Mmh. Et c'est ça le christianisme aussi, c'est nommer l'amour, nommer la source de l'amour. Donc, marcher avec le Christ ressuscité, ben, ça se vit aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est ma vie de clampin, de mec qui est marié avec Florence. Et voilà, on est limité, on est blessé, donc on est renouvelé par la communion du dimanche qu'on apprend à plus être dans le miroir ce qu'on peut se reprocher mais aussi de la communion quoi, la communion en marchant nous deux quoi. C'est pas mal, en fait. Il y a des trucs à dire sur le marché avec le Christ ressuscité. Mais et Emmaüs, c'est le sujet génial.
Il nous reste quelques secondes, Mélina de Courcy.
Ah ben alors, il y a aussi, quand même, je vais aller chez nos auditeurs jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a aussi une dizaine de portraits du Christ qui sont
J'ai pas vu le Bon Larron,
extraordinaire.
Mais ce que... Alors, en fait... Il y a un truc.
Vous avez fait un portrait du Christ? C'est juste ça que je voudrais vous entendre dire. Vous avez pris un motif, un modèle?
Non, je n'ai pas pris de modèle.
Comment
c'est
il
pas
est venu,
ça,
ce visage du Christ?
C'est-à-dire que quand vous pensez, oserais-je dire, vous vous mettez à sa place, quand vous voyez qu'il se tourne vers le larron, qui lui dit, tu sais, tu vas être avec moi ce soir, Jean... Marie, voici ton fils, voici ta mère, choses comme ça. Il est toujours en relation, et puis il en perd, et puis il meurt. En fait, après avoir fait cette séquence, une série de portraits, mais voilà, comme au cinéma, je me suis rappelé que j'avais peint mon père la veille de sa mort. Il était tout faible, tout mourant sur son lit, et je l'ai dessiné parce que je sais que c'est un moment mystérieux.
Absolument.
Et ça dit quelque chose d'important.
Merci François-Xavier de Boissaudy, vous exposez au Bernardin Stade Kreutz et qui sera exposé au musée d'art religieux de Fourvière à partir du 20 avril, il ne faudra pas rater ça.
Merci.
Fourvière, où on peut nous entendre sur 88.4. Alors on peut voir aussi, je ne sais pas si c'est le printemps qui fait éclore des œuvres d'art contemporain dans les églises, mais on peut voir aussi à Saint-Eustache qui célèbre son 8e siècle des œuvres de Dvevait Hadjab, peintre de 32 ans qui expose une conversion de Saint-Paul tout à fait étonnante et inspirée. Il faut préciser que le curé de Saint-Eustache, Yves Trocheris, est féru d'art contemporain et souhaiterait une vraie réflexion sur l'art et le sacré d'aujourd'hui. Nous le ferons. Je rappelle qu'il manque 3 millions d'euros pour la réfection des orgues, le fameux instrument de Maître Guillou, hélas disparu. Autre lieu, à Saint-Denis du Saint-Sacrement, à partir du 9 avril, Sophie Renoir qui exposera ses sculptures inspirées. Je la recevrai lundi prochain pour qu'elle nous en parle. Et puis alors, il faut dire que Boissoudy, Stade Kreutz, aux éditions Première Partie et des éditions des Bernardins. C'est un formidable catalogue. Voilà, merci beaucoup à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, je recevrai Eric Alphen, le juge Alphen, mais nous parlerons de l'écrivain car il publie chez les Bûchers. Chastel, un roman qu'on ne lâche pas et qui s'intitule Les Divisions. Allez, on ne rechonne plus. S'il pleut, ça s'appelle Les Giboulées cette saison. Je vous embrasse, Mélina.